Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite après Vibolos OS. Vous retrouverez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour parler de l'actualité scientifique, technologique, médicale. On va dans l'espace, on va dans les laboratoires, on se balade comme ça pendant une heure ensemble. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pendant cette petite heure. Nous allons feuilleter ensemble un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique dans cette émission du 16 novembre. Déjà le 16 novembre, journée internationale de la tolérance, mon Dieu, qui a été proclamée en 1995 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Soyons tolérants aujourd'hui, mes amis, car c'est la journée internationale de la tolérance. Donc soyons tolérants aujourd'hui seulement. Après demain, c'est bon, on pourra retrouver notre caractère normal, bien évidemment. Dans l'éphéméride, l'année dernière, c'était la 26e conférence générale des poids et mesures qui fixe conventionnellement la valeur de quatre constantes fondamentales de la physique et qui va donc définir, ou tout au moins redéfinir, le kilogramme, l'ampère, le kelvin et la mole. C'était en 2018, le 16 novembre l'année dernière. On en avait parlé dans cette émission, on avait essayé de comprendre quelle était la nouvelle définition du kilogramme. Au niveau de l'éphéméride, on va parler de la naissance, un 16 novembre en 1717, de Jean Le Rond d'Alembert, mathématicien, physicien, philosophe et encyclopédiste français, donc né un 16 novembre. Il est célèbre pour avoir été l'inventeur d'un principe de l'équilibre que Condorcet explique dans son éloge de d'Alembert. D'Alembert, en fait, a ainsi fixé une liaison entre les lois du mouvement. En 1744, il est l'inventeur de cette nouvelle branche des mathématiques, le calcul aux dérivés partiels, qui introduit des fonctions arbitraires. Mon Dieu, les dérivés partiels. Pour ceux qui ont fait des études de maths, ils doivent cela à D'Alembert. En 1749, à la suite de ses recherches en mathématiques sur les équations différentielles et les dérivés partiels, eh bien, il est appelé pour diriger l'encyclopédie avec Denis Diderot. Des écoles, des rues, des centres de recherche portent donc son nom. Le nom de Jean Le Rond d'Alembert, né le 16 novembre 1717 à Paris. Il est mort le 29 octobre 1783. J'étais persuadé qu'il était encore vivant au moment de la Révolution, et notamment en 1789. Et non, il est mort avant d'Alembert. Et donc, voilà, il a participé à l'encyclopédie avec Diderot. Le décès, le 16 novembre 1833, du botaniste français René Desfontaines. Après ses études de médecine, il va étudier l'histoire naturelle sous la direction de Bernard de Jussieu. Il publie divers travaux de botanique qui vont lui valoir d'être admis à l'Académie royale des sciences en 1783. Il est membre également de l'Académie de médecine. Il est également directeur du Musée national d'histoire naturelle, René Desfontaines, qui devient aveugle à la fin de sa vie et il se fait conduire dans les serres du muséum et il tente de reconnaître ou toucher les plantes. Il a été un passionné jusqu'au bout, mort donc le 16 novembre 1833 à Paris, la mort de René Desfontaines. Voilà pour l'éphéméride. Au niveau du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, depuis le début de l'année, on remplit une case. Et là, on va parler du radium. Élément radium, les expériences historiques de Pierre et Marie Curie en 1898 ont conduit à la découverte du polonium et du radium à partir de quelques centaines de grammes de minerai d'uranium. Et c'est un élément fortement radioactif. Et ils vont attribuer son nom à partir du mot latin radius, qui fait référence à, bien sûr, à son fort rayonnement appelé lumière bleutée. Et sur cette même racine, eh bien, Pierre et Marie Curie forment donc le mot radioactivité. Le rayonnement de 1 gramme de radium est utilisé pour déterminer l'unité de mesure de la radioactivité qui est le curie. Et l'ère de la radioactivité et de la radiochimie a été ouverte de 1896 à 1898, notamment avec les découvertes, donc, je l'ai dit, du polonium et du radium. L'ère du nucléaire a été ouverte entre 1938 et 1940, initiée par la découverte de la radioactivité artificielle. Les conséquences des découvertes successives ont lentement mais profondément, bien sûr, marqué la chimie. Le radium, symbole chimique grand R, petite a, et numéro atomique, le 88. Voilà, remplissons ensemble la case 88 de ce tableau périodique des éléments de Mendeleïev. On retrouvera bien sûr, comme toutes les semaines maintenant, Anne Fleur pour une petite escapade. Je pense qu'on reste encore cette semaine de l'autre côté de l'Atlantique pour pouvoir découvrir les inventions qui ont été créées dans une ville précise des États-Unis. On verra ça dans cette émission. Je voulais juste, avant de commencer à feuilleter un petit peu l'actualité scientifique, parler de la fonte des glaces en Antarctique qui pourrait faire monter le niveau des mers de façon assez importante. En fait, il y a 3 millions d'années, les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère étaient comparables à ceux d'aujourd'hui. La température sur Terre de 2 à 3 degrés supérieure à celle que nous connaissons actuellement. Et grâce à une nouvelle méthode, eh bien, il y a des chercheurs de l'Université Victoria en Australie qui viennent d'établir que le niveau de la mer avait alors pu monter jusqu'à 25 mètres au-dessus de son niveau actuel. C'est une analyse des sédiments géologiques marins et plus particulièrement de la taille des particules véhiculées par les vagues qui a permis de conclure à ce résultat. Les travaux montrent aussi que la plus grande part de la montée des niveaux des eaux incombait alors à la fonte de l'Antarctique. La fonte du Groenland n'aurait pas été à l'origine de plus de 5 mètres d'élévation sur les 25 mètres au total qu'on avait pu estimer. Au rythme actuel des émissions de dioxyde de carbone, nous serons peut-être de retour dans cette situation d'ici 2030. C'est ce que remarque Georgia Grant, chercheur à cette université australienne. Et le tiers de la calotte glaciaire antarctique se trouvant sous le niveau actuel des eaux est particulièrement mis en danger par le réchauffement climatique, sa fonte menace à elle seule de faire monter le niveau des mers de 20 mètres, ce qui est énorme, 20 mètres, évidemment. Nos travaux montrent qu'un point de basculement peut être franchi si l'on baisse les températures mondiales montées de plus de 2 degrés, ces fameux 2 degrés qui viennent un petit peu de la COP21, de quoi renforcer encore un peu plus l'importance donc de l'objectif qui a été fixé par l'accord de Paris il y a quelques années sur le climat. Mais voilà cette nouvelle étude qui indique que la fonte des glaces en Antarctique pourrait faire monter le niveau des mers de 20 mètres. Toutes les semaines, on a des informations qui se confirment, en fait, avec des simulations qui sont faites et des échéances qui se rapprochent, parce que là, on parle de 2030. En clair, c'est demain, il ne faut pas se leurrer. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Mais aussi sur la bande FM, bien sûr, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Graphite en direct ou en différé, parce qu'il y a la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts, bien sûr, si vous souhaitez écouter ou réécouter une émission, profitez-en. Et puis Biotine, c'est aussi une émission de musique, parce que ça nous fait du bien de pouvoir un petit peu parler de science et d'écouter un peu de musique. C'est ça, Biotine. Lies, c'était Colorado sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h. Eh bien, vous allumez votre radio, vous écoutez sur Internet Graphite pour pouvoir vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison. C'est vrai, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de science dans notre société moderne. Alors, autant on est abreuvé d'éléments totalement inutiles sur des people dont on se moque totalement, autant on ne sait pas ce qui se passe dans l'espace, ce qui se passe dans nos laboratoires et ce qui va nous concerner bientôt. Alors, deux petites informations assez intéressantes et on va essayer d'en savoir plus. La première, alors ça date déjà de début septembre, mais je n'ai pas eu le temps de l'évoquer avant. Il y a le centre d'essai de l'US Air Force qui s'appelle Air Force Test Center. C'est un centre d'essai destiné à l'étude et au développement de systèmes militaires pour l'aéronautique et le spatial. Eh bien, début septembre, ce centre d'essai avait publié sur Facebook une vidéo d'un véhicule qui se déplaçait sur un rail à une vitesse totalement faramineuse de 10 600 km par heure. 10 600 km par heure, c'est énorme. Et à cette vitesse, le véhicule n'est pas du tout visible à l'image, bien évidemment. Il y a juste un espèce de flash lumineux. Il y a une explosion ensuite, et puis ça laisse derrière lui une espèce de traînée de fumée. Bref, on a bien l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé, et même quand on met les images au ralenti, on ne voit rien. Ça reste impressionnant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, ils mettent cette vidéo en ligne, mais ni le centre d'essai, ni l'US Air Force n'ont souhaité commenter la vidéo et de fournir des informations sur ce mystérieux véhicule dont on ignore l'aspect, le moyen de propulsion utilisé et ce à quoi il pourrait servir à l'avenir. Les phases d'accélération et de décélération de ce véhicule ne sont pas montrées non plus, ce qui empêche de se faire une idée plus précise sur son fonctionnement. Cela dit, bien qu'il semble se déplacer sur une sorte de rail, il ne faut pas le comparer à un train, par exemple, nous dit-on. Tout comme il est peu probable que le véhicule soit un jour utilisé sur la terre ferme pour le transport de quoi que ce soit. Mais voilà, on n'en sait pas plus. Et du coup, depuis maintenant 2 mois, depuis que l'armée américaine a dévoilé un véhicule qui se déplace à plus de 10 000 km/h, toutes les suppositions sont maintenant évoquées. On n'en sait rien, mais on en saura bientôt un peu plus, parce que si effectivement ce principe de déplacement d'un véhicule s'avère exploitable d'une façon, comment dirais-je, réaliste pour pouvoir essayer d'avoir des applications concrètes dans certains domaines, c'est une découverte faramineuse. Mais pour l'instant, voilà, on n'en sait rien. L'armée a mis une vidéo comme ça, on ne voit rien du tout. On nous donne des chiffres assez importants et assez bluffants. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et puis on laisse faire comme ça, les ragots se poursuivent sur les réseaux sociaux. C'est assez intéressant, mais voilà, vous pouvez voir cette vidéo, bien sûr, si vous le souhaitez. Enfin, vous ne verrez rien, mais ça peut être intéressant de pouvoir participer également à ce gros point d'interrogation que nous avons tous dans les yeux quand on regarde cette vidéo. Autre information concernant la tendance actuelle, bien sûr, à la réduction de l'usage des plastiques jetables. Vous le savez, on est maintenant dans cette phase de pouvoir réduire les déchets, et notamment les déchets plastiques. Mais pas du côté des fabricants de thé, qui ont pris l'habitude maintenant de remplacer leurs traditionnels sachets en papier par des sachets en plastique avec du nylon, du polypropylène par exemple. Eh bien, c'est une bien mauvaise idée. Selon des chercheurs de l'université McGill au Canada, les thés qui sont ainsi préparés contiendraient en effet une quantité importante de résidus de plastique, parce qu'avec le temps, le plastique se décompose en particules microscopiques, voire nanoscopique, c'est-à-dire vraiment très petite, et les chercheurs ont voulu savoir ce qu'il en était des sachets de thé, et ils ont ainsi analysé les thés de 4 marques différentes, dont les noms n'ont pas été révélés dans cette étude. Ils ont d'abord vidé les sachets de leur thé et les ont rincés afin de prévenir tout risque de contamination. Puis, ils ont plongé les sachets dans de l'eau à 85 degrés, comme on le fait traditionnellement pour pouvoir préparer son thé. Et le microscope électronique a révélé que chaque sachet libère dans l'eau environ 11 milliards de microparticules de plastique et 3 milliards de nanoparticules, encore des particules beaucoup plus petites, des niveaux des milliers de fois plus élevés que ceux trouvés dans d'autres aliments, et avec un effet marqué de la température, puisqu'à une vingtaine de degrés, les mêmes sachets libèrent dans l'eau environ 300 fois moins de particules, c'est-à-dire que plus on met de l'eau chaude, plus le plastique va se détériorer. Pour se faire une première idée de l'impact sanitaire potentiel du phénomène, eh bien, les chercheurs ont traité des modèles souvent utilisés de puces d'eau avec des doses semblables de plastique, eh bien, elles ont survécu, mais avec des anomalies anatomiques et comportementales. On a utilisé ces puces d'eau pour pouvoir essayer de voir l'impact de cela. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des choses qui se passaient sur elles, des recherches supplémentaires sont donc bien sûr les bienvenus pour déterminer les effets de ces plastiques sur notre santé. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, vous l'avez peut-être remarqué comme moi, il y a quelques temps, on n'a plus les sachets de thé traditionnels en papier, maintenant on a des sachets en plastique à l'heure où tout le monde essaye de réduire les plastiques. C'est d'une aberration totale et donc cette étude canadienne montre que, notamment c'est bien sûr une aberration, mais en plus ça a un véritable impact sur l'environnement et le fait que du coup on boit notre thé et on bouffe du plastique en même temps, quoi. C'est vraiment assez inquiétant tout ça, mais bon, que voulez-vous ? On n'y peut rien, ça ne changera pas malheureusement. Dernière information avant de pouvoir écouter un autre titre. Je vous avais parlé, je crois, dans une émission du mois de septembre de la NASA et notamment, non plutôt, pardon, excusez-moi, de l'Inde qui avait envoyé une sonde sur la Lune et qui l'avait perdue. Eh bien, un satellite de la NASA en orbite autour de la Lune est passé au-dessus du site où aurait dû se poser cette fameuse sonde indienne le 7 septembre dernier, mais le satellite ne l'a pas vu. L'agence spatiale américaine a publié il y a quelques jours des photographies des plaines situées à environ 600 km du pôle sud de la Lune, là où la sonde aurait dû, j'allais dire atterrir, mais non, on parle d'alunissage parce qu'on est sur la Lune, des photos donc prises par son satellite, et jusqu'à présent, l'équipe n'a pas pu localiser ou photographier cette alunisseur, c'est ce qu'explique la NASA, mais comme le satellite est passé à l'aube, une partie du terrain survolé était donc dans l'ombre et il est possible que cet atterrisseur se cache dans une ombre, selon la NASA qui précise que le satellite repassera régulièrement pour essayer de pouvoir repérer cette sonde. L'Inde avait lancé la mission Chandrayaan 2 le 22 juillet dernier. La sonde principale qui reste en orbite à ce jour autour de la Lune a lâché un atterrisseur quelques jours avant l'alunissage qui était prévu, mais à la fin de la descente, on en avait parlé, alors qu'il était descendu à une altitude de 2 km, eh bien, le contact avait été perdu et à 1 km du point d'alunissage, eh bien, l'atterrisseur filait à une vitesse horizontale de 48 mètres par seconde, qui est assez important, une vitesse verticale de 60 mètres par seconde, c'est encore plus important, et eh bien, l'agence spatiale indienne avait annoncé le 10 septembre que cet atterrisseur avait été localisé par l'orbiteur, mais il n'y avait pas eu de communication. L'Inde dit tenter de rétablir le contact depuis, mais dans son communiqué, eh bien, la NASA explique cette fois que l'atterrisseur a subi un atterrissage dur, donc ça c'est entre guillemets, ça veut dire qu'en fait il s'est fracassé, ce qui dans le jargon spatial signifie un crash irrémédiable. Bref, l'Inde, qui aurait été le 4e pays après la Russie, les États-Unis et la Chine à alunir une sonde, n'y est pas arrivé. On rappelle qu'Israël avait également échoué en avril de cette année. Donc voilà, on ne l'a pas retrouvé, on ne sait pas où c'est, mais on sait que ça s'est crashé en clair. Donc on le retrouvera peut-être, mais il ne sera pas fonctionnel. Et c'est fort dommage. Allez, on écoute un autre titre et on continue de feuilleter l'actualité scientifique. Vous êtes à table, peut-être, je vous souhaite un bon appétit. On parle plein de choses vis-à-vis de la viande rouge. C'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien. Il y a un article sur Futura Science qui essaye de faire un peu le point sur ces informations parfois contradictoires dans ce domaine-là. C'est juste après ce titre de Reykjavik. Oh là là, mais ça, je ne sais même pas comment ça se prononce, parce que c'est un mot de 20 lettres. Reykjavik, Reykjavik et Tour, je crois. C'est ça que nous allons écouter sur l'antenne de Graphite. Et je vous ai dit, c'était la journée de la tolérance. Donc soyez tolérants avec les prononciations de ces titres musicaux, parfois assez complexes. A tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Okkur einn á því ísjökul kaldan Hrifiverku fiskinn, fjöllinn og fjöldan Splæsum í Dominos og Benglok og Chips Panda dýrindir stressum með górið og stips Skjárin endur síni stoltur barða að kunna nelsa Meðan Palestína verð sig ef höggum Ísraels Tökum lækum öllupók og skákum áttu vinnum helst Láttu kala kaninu fyrir þess ekki pels Saklis fólk í útlöndum í vekkondum í pörtum Svo stöndum við og kvöldum utan Miskunabón í Mono, Monopoly Dono Meira Molly, meira fjör, meira show, YOLO Bætu frá félói, blásið ego Stelpur úr Barbie og strákar úr Lego Go, let's go Öndum að okkur tjöru, endum öll á börum Spæku, spæku, stelpurnar, svo það verða smjöri Smyrjum þær á rödds, keks, klaksum, fölsu, six pack Störum, hyggstu, flissu, pissu, pissum, ekki smá sex Peppi pí á pallinum og leikurinn hafin Háísinn í á mig, ég í kafi Tómi framan, tórandi framan Ég stoltið af opni
Alltaf í boltanum
Sigur sjokk í skoltinum en soltinn í meir Ég vil fá það núna, eitt fyrir og geir Láti bíti berja á kassa Put your hands up in the air Öll fljóðin og flassa Og sóðarni með Láttu bíti berja á kassa Put your hands up in the air Öll fljóðin og flassa Og sóðarni með Því ég bólin, ég rólin Ég peppin, tjúfell ég heppin Ég bólin, ég rólin Ég peppin, tjúfell ég heppin Lómagnúpur opnast og jötunin grætur Þras og þrætur, njáttlinni brendur Kallinn orði kendur, kenni þér að hlýða Ríðu nú á batið, hlýði mín fríða Börnin fernd og fullu farmu barna Á leiði við sjófin, sjá fyrir þarna Gráðbólgin báran sem alins í sárin Öskrar og syrgir, ókomnu árin Engin heyrir, engin veit, þey, þey og róró Hún var hrein mei og hún dó Bárinni býðu við, opnar á sér dundinni Tónikið á tilbóði, hversu mikið skulda ég? Greiðslan í góðu en að setja hann á rað Gefðu mig staðan og slappaðu að Það er dulið í lægð Skýjað með köflum Konur með konum og konur með köllum Konur í holum og konur á stöllum Konur í vonum að enda á pöllum Þið rokki lifir enn á meðan slækjur eru slyktar En sitja menn og horfa skosu þessa slyktar Mega baby bónsu pilsi sjálf fyrir vingin horfin Brennu bálið innra erum dansar upp að borði Erum dansar upp að borði Brennu bálið innra erum dansar upp að borði Sólalagið gillist og spillingi fagnar Nóttin hétu sólina, tónlisti fagnar Skuggandi tala, samiskan í dvala Dýri gengur löst og sveifla sínum hala Tjamið er einn fólkið mér, hún hann fær og þeir Svo bring it on right now Eitt, tver og geir Eitt, tver og geir Láti bíti berja á kassa Put your hands up in the air Öll fljóðin og fassa Og sóðarni með Láttu bíti berja á kassa Put your hands up in the air Öll fljóðin og fassa Og sóðarni með Því ég bólin, ég rólin Ég peppin, tjúfell ég heppin Ég bólin, ég rólin Ég peppin, já tjúfell ég heppin Já tjúfell ég heppin Tjúfell ég heppin Tjúfell ég fucking heppin
Ouais, eh ben écoutez, j'arrive toujours pas à essayer de prononcer correctement le nom de ce groupe, donc on va passer à la suite et puis c'est tout. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé, et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Si on s'intéresse à la science, on a parfois un peu l'impression qu'elle retourne constamment sa veste, un coup noir, un coup blanc, on sait pas trop où est-ce qu'on en est, mais si une discipline comme la nutrition n'énonce pas des lois quasi immuables comme par exemple la physique, elle n'énonce pas tout et son contraire comme on peut l'entendre un petit peu partout. Récemment, les médias nous ont annoncé que finalement des chercheurs étaient arrivés à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire pour la santé de réduire sa consommation de viande rouge et de viande transformée. La principale critique faite aux recommandations en vigueur dans cette étude n'est pas de dire qu'il n'y a pas de preuves. Les études que citent les auteurs montrent clairement un bénéfice statistique sur la mortalité toute cause confondue à réduire sa consommation de viande rouge est transformée. Le point de discorde est purement interprétatif. Par exemple, selon Thibaut Fiollet, qui est représentant pour la Belgique dans le réseau scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, eh bien, éviter des une dizaine de décès sur 1000 n'est pas rien du tout au niveau de la population. De plus, cela entraînerait des économies importantes de santé si on ramène ce chiffre à une population de plusieurs millions d'habitants. En fait, la critique des auteurs est que les preuves ne font pas partie de ce que l'on considère en sciences médicales comme un haut niveau de preuve qui s'obtient grâce à beaucoup d'essais cliniques. Et ils ont raison, sauf que les effets santé d'un régime alimentaire, à l'inverse de la prise d'un médicament par exemple, eh bien, les effets ne peuvent tout simplement pas être jugés de la sorte, parce qu'il est impossible que le patient ne sache pas quel régime il suit et qu'il adhère sans faille à un régime sur le long terme. Un ensemble de conditions qui rend infaisable l'expérimentation sur le long terme en nutrition, théoriquement extrêmement coûteux. En revanche, il y a d'énormes études qui sont régulièrement entreprises dans le domaine de la nutrition. Et si on ne peut rien conclure sur la base d'une étude, bien lorsqu'elle se multiplie, que le faisceau de preuves tend vers la même direction et que des mécanismes biologiques sous-jacents confirment ces corrélations, eh bien on doit leur accorder une crédibilité assez solide. La nouveauté donc de ces recommandations, c'est qu'elle inclut les préférences des consommateurs, sauf que les préférences alimentaires varient grandement au cours d'une vie. Il ne semble donc pas raisonnable de les prendre en compte au sein de recommandations alimentaires pour la santé. On notera en fait que les auteurs sont tous consommateurs réguliers de viande rouge, tous sauf un, et ils excluent de leurs recommandations les questions environnementales et celles du bien-être animal. Il semble peu cohérent de traiter la question de la consommation de viande en mettant de côté l'ensemble de ces questions dans un contexte de changement climatique plus que préoccupant. Finalement, les études justifiant ces recommandations ne semblent pas suffisamment convaincantes pour jeter à la corbeille celles qui sont actuelles toujours en vigueur. Voilà, je vous ai lu cet article de Futura Science qui reprend donc certaines annonces ou certaines critiques suite à cette pagaille qui date depuis fin septembre, début octobre, où la grande majorité des médias se sont emparés des nouveaux avis nutritionnels qui semblaient bouleverser les recommandations alimentaires en vigueur concernant la viande rouge et la viande transformée. Et c'est en tout cas ce que laissait penser un petit peu les titres sensationnels de la presse écrite. Mais ils sont peut-être... se sont un peu précipités. Et voilà, il faut prendre un peu de recul avec tout ça. Non, il n'y a pas de contradiction, mais il y a des éléments à prendre en considération quand on fait une étude scientifique. C'est un petit peu savoir quels sont les éléments qui ont permis de comprendre un petit peu le protocole expérimental, en clair, pour essayer de comprendre comment nous sommes parvenus à ces résultats et comment on interprète les résultats. Et la difficulté, c'est que on a parfois des articles qui sont mis en avant par la presse, ou en tout cas une certaine presse qui ne parle pas souvent de science, mais qui à chaque fois qu'elle en parle, va essayer de prendre des sujets un peu polémiques. Et du coup, il y avait, voilà, sur la viande rouge, des choses qui avaient été dites sur les répercussions sur la santé et que du coup, il faut s'y fier. Alors, en conclusion de tout ça, c'est que objectivement, on n'en sait rien en fait. Mais il faut toujours, et c'est un peu souvent le cas de ce que l'on explique dans le cadre de cette émission, il faut toujours essayer de prendre du recul avec l'ensemble des annonces qui sont faites, parce que comme son nom l'indique, ce sont des annonces. Donc on est aussi dans un exercice de communication. Et là, on est dans le cadre d'une revue de presse de l'actualité scientifique. Donc il y a des annonces intéressantes qui sont faites par certains laboratoires, mais quand on creuse un petit peu, on se dit que finalement le protocole expérimental est un peu léger, qu'il faut attendre un petit peu plus de recherche, de poursuivre un petit peu les travaux pour essayer d'aboutir à des conclusions un petit peu plus satisfaisante ou en tout cas un peu plus fiable. Et puis il y a parfois également au niveau de la grande presse, au niveau des grands médias, le côté un petit peu zapping qui fait qu'on parle d'une information, puis après on en parle d'une autre, et puis après on en parle d'une autre, et on n'a jamais le temps effectivement, d'essayer de comprendre, de recontextualiser un petit peu. Donc faites attention quand on parle d'actualité scientifique sur certains médias, parce qu'on on voit qu'un petit bout de la lorgnette et on n'a pas le recul nécessaire pour essayer de comprendre ces domaines-là. Donc voilà, cet article de Futuration, c'était intéressant justement pour essayer d'alerter en se disant une annonce comme ça n'est jamais anodine et il faut essayer aussi de comprendre derrière ce qu'il y avait quand tel ou tel groupe scientifique, quel qu'il soit, parce que parfois derrière il y a aussi des industriels et qui dit industriel dit aussi argent, donc ça c'est souvent aussi que je vous le dis. Voilà, il faut essayer d'avoir beaucoup de recul et essayer de prendre en considération l'ensemble des éléments avant de s'en faire un avis. De toute façon, comme je conclue assez souvent les articles en disant affaire à suivre, c'est-à-dire que là, on est à l'instant T sur une information, on aura peut-être une information complémentaire ou contradictoire après. Et donc, c'est un petit peu l'avancée, mais c'est ça, là aussi, la recherche et la démarche scientifique, elle se base sur à la fois des échecs, des contradictions pour parvenir à un résultat. Il faut prendre le temps, tout simplement. Allez, c'est à toi, Anne-Fleur. On va partir de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai l'impression que depuis quelques semaines, Anne-Fleur, tu nous emmènes de l'autre côté de l'Atlantique, sur le continent américain. Et j'ai un petit peu l'impression qu'on va revenir sur l'Amérique du Nord, je crois. Allez, c'est à toi, tout de suite, Anne-Fleur.
Good morning Compiègne, bonjour à tous et hello Jean-Noël. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que le week-end s'annonce bien de votre côté. La semaine dernière, nous étions au Mexique et aujourd'hui, nous remontons un petit peu plus au nord sur le même continent, direction l'État de l'Utah, à Salt Lake City. Alors, si Salt Lake City vous fait penser à l'église de Tom Cruise, les Mormons ou encore vous rappelle les JO de 2002, sachez que vous n'avez pas tort, c'est une bonne nouvelle, mais ce serait bien mal connaître cet état que de croire que c'est ce qui le définit. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de trois grandes inventions venues tout droit de l'état de l'Utah. Décidément, j'ai du mal. Alors, décidément, la télé fait parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait de l'ingénieur qui a inventé la télé couleur et qui venait donc tout droit du Mexique. Et aujourd'hui, c'est celui qui l'a inventé tout court. Monsieur Philo Farnsworth. Quand il était enfant, en fait, il essayait un peu désespérément de capturer la lumière dans un pot de confiture en verre et de la transmettre. En 1927, alors fraîchement diplômé de l'université locale, il réalisa son rêve et produit la première transmission électronique de télévision. Après plusieurs années de tests, il utilisait d'ailleurs même sa femme comme le premier sujet humain à être passé à la télé en 1930. Sympa le mec. Alors si aujourd'hui on critique la télévision pour la qualité souvent questionnable de ses programmes, sachez que son inventeur, lui, il la rêvait vraiment comme un outil d'enseignement et clamait haut et fort que grâce à celle-ci, il n'y aurait plus de problème d'illettrisme. Malheureusement, quelques années plus tard, après avoir vu l'état de la télévision, il demandait lui-même à ses enfants en fait, de ne plus regarder la télévision et il admettait lui-même avoir créé un monstre. Et puis, comme c'est souvent le cas, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les différentes chroniques dont je vous parle, les inventeurs passionnés comme ça ne sont pas forcément bien protégés en termes de propriété intellectuelle, ce qui fait qu'il s'est fait un petit peu piller toute son invention et n'a jamais vraiment gagné un rond. Voilà, donc food for thought, réfléchissons-y la prochaine fois qu'on vient avec une super idée. La seconde invention dont je voulais vous parler, elle est liée à l'hiver. Salt Lake City, donc c'était les JO d'hiver de 2002. Et donc, je vais vous parler de la glace plus spécifiquement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Zamboni ? Le Zamboni, c'est une espèce de tank, je ne sais pas trop comment décrire ça, qu'on voit sur la patinoire entre les matchs de hockey ou entre les performances de patinage artistique. Et donc, c'est cette espèce de tank qui passe sur la patinoire, aplatie en fait, et resurface la glace. En 1920, Frank Zamboni, il déménagea en fait, depuis son Utah natal vers le sud de la Californie avec ses deux frères et il travaillait dans le business de l'automobile. Pendant qu'ils étaient là-bas, ils ont aussi en fait, développé une usine qui permettait d'envoyer des blocs de glace aux quatre coins des US. Et en fait, à ce moment-là, Frank Zamboni, il a constaté la popularité grandissante du patin à glace et il s'est dit, bon, bah, il y a clairement un besoin, parce que je ne sais pas si vous faites du patin à glace, Jean-Noël ou ceux qui écoutent. Mais c'est vrai qu'après une matinée où il y a plein de gens qui sont passés sur la patinoire, c'est très désagréable puisque la qualité de la glace est très mauvaise et c'est pas du tout plat. Et donc, en fait, il a mélangé et utilisé ses connaissances de l'industrie automobile ainsi que de l'industrie de la réfrigération et il a créé ce fameux Zamboni. Merci, Franck. La troisième invention dont je vais vous parler, ce sont les fameux feux tricolores. Alors la prochaine fois que vous êtes bloqué à un feu rouge, au lieu de pester, remerciez Mr. Lester Wire. C'était un policier de Salt Lake City. C'était d'ailleurs, je crois, le directeur du département trafic, ou je ne sais pas trop quoi. Et en fait, donc, il a inventé ces feux tricolores en 1912. Son idée, a priori, en fait, elle lui serait venue alors qu'il était lui-même bloqué à une intersection. Alors, en 1912, je pense que les intersections un peu bloquées, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, mais quand même. Et là, en fait, il s'est dit, non, il doit y avoir un moyen plus efficace et plus sûr pour tout le monde, en fait, de pouvoir se croiser sans encombre. Et c'est vrai que j'imagine même pas ce que ça devait être avant, puisque... il n'y avait pas non plus de rond-point partout. Et donc, c'est là en fait, qu'il a conçu et construit lui-même une boîte qui était montée sur un poteau, donc au bord de la route. Et il avait trempé lui-même, pour la petite histoire, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé comme information, des ampoules dans de la peinture verte et de la peinture rouge afin de montrer, donc, c'était rouge ou c'était vert. Il n'y avait pas d'orange à l'époque. C'était un policier qui n'était pas très très loin, qui lui-même en fait changeait les couleurs, donc c'était pas automatique. Et il alimentait en électricité, en fait, en ayant des fils qui sortaient de cette boîte-là et qui étaient connectés au système de tramway qui passait à côté. Plutôt ingénieux. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite balade vous aura plu, au cœur de l'Amérique profonde, dans le coin de Salt Lake City. Si vous avez des idées de villes ou de régions dont vous aimeriez que je vous parle la prochaine fois, n'hésitez pas à le faire savoir à Jean-Noël. Je serai ravie de m'en occuper. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Anne-Fleur. Alors donc, si vous avez des idées de villes ou de pays, vous contactez Graphite par le site internet graphite.net pour pouvoir donner à Anne-Fleur quelques idées. N'hésitez pas. Deuxième chose, l'état d'Utah. Effectivement, c'est pas facile à dire, mais Anne-Fleur, rassure-toi, je rappelle que c'est la journée de la tolérance aujourd'hui, donc on te pardonne cet état de l'Utah. Troisième chose, tu nous parles donc de la création des feux tricolores. Eh bien, ça me permet de faire une superbe transition sur cet article concernant le secret des fourmis pour éviter les embouteillages. On voit ça tout de suite après ce titre sur l'antenne de Graphite. Dark side. c'était Falling Deep de Blow sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. On était donc parti à Salt Lake City dans l'état d'Utah et on revient en France avec, on revient à Paris d'ailleurs, les Parisiens qui perdent en moyenne 150 heures par an dans les bouchons. Les fourmis qui vivent pourtant en communauté très dense ne semblent pas rencontrer ce problème. Au contraire, quand la densité de fourmis augmente sur une route, eh bien le flux croît puis devient constant, contrairement aux êtres humains qui, au-delà d'un certain seuil de densité, ralentissent jusqu'à atteindre un flux nul et provoquer ainsi un embouteillage. C'est la conclusion étonnante d'une étude des chercheurs du Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université de Toulouse qui s'est associée avec l'Université d'Arizona aux États-Unis. Ils ont paru il y a quelques jours les résultats de leurs travaux dans la revue eLife. Afin de percer leur secret, eh bien, les chercheurs ont filmé 170 expériences pour observer le flux des fourmis entre leur nid et une source de nourriture qui était séparée par un pont. Et donc, ils ont joué dans leur expérience sur la largeur de la route. Donc, il y avait 5 mm, 10 mm, 20 mm. Et ils ont joué également sur le nombre d'individus, 400 fourmis jusqu'à 25 600, tu les comptes une par une. L'idée, bien sûr, c'est de pouvoir faire varier la densité et donc d'essayer d'avoir des nombres d'insectes par unité de surface différents. Et donc, dans un embouteillage de voitures ou de piétons, eh bien, le flux ralentit dès que le taux d'occupation par unité de surface atteint 40%. Chez les fourmis, en revanche, le flux ne montre aucun ralentissement, même avec un taux d'occupation supérieur à 80%. Alors, il y avait des précédentes études sur les fourmis qui avaient suggéré une séparation du flux lorsque le nombre d'individus devient un petit peu important et le trafic il devient un petit peu unidirectionnel, donc dans un seul sens. C'est-à-dire qu'il y a une alternance de fourmis qui vont entrer et ensuite de fourmis qui vont sortir. Et bien, les chercheurs du CNRS n'ont pas pu vérifier cette hypothèse et ils ont même observé que la circulation n'était pas spécialement affectée, que le trafic soit dans un sens ou dans les deux sens. Les fourmis semblent plutôt avoir une stratégie plus basique, c'est-à-dire de foncer dans le tas, tout simplement. Ainsi, alors que les conducteurs, les humains, eux, vont appuyer sur la pédale de frein quand la densité de véhicule augmente, eh bien les fourmis elles accélèrent jusqu'à atteindre la capacité maximale de la route. Toutefois, lorsque la densité devient trop importante et que les collisions sont trop nombreuses, eh bien elles changent de stratégie, elles préfèrent éviter les collisions coûteuses en temps et elles vont ajuster leur vitesse de déplacement. D'autre part, lorsque la densité de fourmis est déjà trop forte sur la route, elles renoncent tout simplement à s'engager et elles attendent que la densité diminue. De cette façon, la densité sur le pont, pour l'expérience, ne dépasse jamais 18 fourmis par centimètre carré. Même lorsqu'on augmente le nombre de fourmis au point de départ et qu'on va réduire la taille du pont, eh bien ça ne changera pas. C'est tout l'inverse des humains qui n'hésitent pas à emprunter coûte que coûte une route embouteillée au risque d'aggraver la situation. Bien évidemment, on a tous connu ça. Alors la méthode fourmi, un petit peu anti-embouteillage, elle est bien sûr difficilement applicable pour nous parce que si le trafic chez les fourmis présente de nombreuses analogies avec les déplacements de piétons et de véhicules, il repose aussi sur des différences fondamentales, c'est ce qu'avertissent ces chercheurs, parce qu'elles, elles sont protégées par un exosquelette, donc un squelette extérieur, et les fourmis ne craignent pas les chocs, ce qui leur permet de tolérer un nombre de collisions plus élevé, ce qui viendra à personne, à l'idée de personne, de pouvoir accélérer avec sa voiture quand le trafic augmente sur l'autoroute, par exemple. Ce qui est, par contre, le cas des fourmis. Elles y vont. Les fourmis partagent d'autre part un but commun qui est la recherche de nourriture. C'est-à-dire qu'elles sont toutes dans l'idée d'aller chercher la nourriture qui est de l'autre côté du pont et de revenir après, de ramener la nourriture dans le nid. Donc, quelque part, elles n'ont qu'un seul objectif. Quand disent que nous, alors là, c'est du chacun pour soi, parce que chacun son objectif, se fout de savoir l'autre ce qu'il veut faire. Et c'est ça aussi qui vont également avoir un impact sur les embouteillages. Enfin, les voitures, les automobilistes sont soumis à des réglementations, notamment les feux rouges de ce que vient d'évoquer Anne Fleur dans sa chronique à Salt Lake City, les limitations de vitesse évidemment, que ne connaissent pas les fourmis. Elles n'ont pas de limitation de vitesse, elles n'ont pas de feux rouges. Quelle chance elles ont. Elles sont intelligentes. Quand il y a trop de monde, elles attendent. Voilà, quand vous serez dans un embouteillage la prochaine fois, vous penserez aux fourmis qui, elles, finalement, sont quand même beaucoup plus intelligentes que nous. Voilà, c'était une étude qui nous venait du CNRS, c'est donc d'une étude française qui s'est associée avec une équipe américaine, bien sûr. Autre chose, on parlait d'exosquelette, donc l'idée d'avoir un squelette à l'extérieur. Vous avez sûrement vu ces images totalement intéressantes qui datent déjà du mois d'octobre par contre, et on en avait évoqué d'ailleurs à l'occasion de l'émission spéciale de la fête de la science qu'on avait fait à l'Université Technologique de Compiègne. On avait parlé de ce patient tétraplégique qui avait réussi à pouvoir se déplacer grâce à cet exosquelette. Le centre de recherche Clinatech à Grenoble, un centre de recherche qui va mêler la technologie et la médecine, eh bien ce centre a réussi à mettre au point une neuroprothèse inédite qui permet à un patient tétraplégique équipé donc d'un exosquelette de pouvoir se déplacer. C'est une avancée scientifique et médicale significative qui offre de réelles perspectives de rendre leur mobilité à des patients tétraplégiques, c'est-à-dire paralysés des quatre membres. C'est une paralysie souvent provoquée par une lésion de la moelle épinière. Les résultats de cette étude clinique viennent d'être dévoilés et ils ont été publiés donc dans la revue The Lancet Neurology. Ces résultats valident justement le concept de ce pilotage d'un exosquelette à quatre membres spécifiques. Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet qui avait pour objectif d'apporter la preuve qu'il est possible de piloter un exosquelette à quatre membres à partir des signaux corticaux, c'est-à-dire qu'on a mesuré par un implant dans le cerveau afin d'offrir à terme des perspectives d'avenir aux personnes en situation de handicap moteur. Donc, ce centre de recherche a mené un essai clinique de ce dispositif sur un patient de 28 ans tétraplégique qui s'appelle Thibault. Il est atteint d'une lésion de la moelle épinière et depuis 27 mois, ce patient effectue différents types d'exercices pour s'entraîner à contrôler l'exosquelette. Pardon, je vais y arriver. Il est équipé de l'exosquelette. Je vais y arriver. Suspendu, et il est aujourd'hui capable d'enchaîner quelques pas et de contrôler ses deux membres supérieurs dans trois dimensions, tout en ayant la maîtrise de la rotation de ses poignets en position assise ou en position debout. Concrètement, il peut avancer les jambes en fait de son exosquelette. Il peut plier le coude. Il peut lever les épaules. Vous avez sûrement vu ces images sur Internet ou à la télévision. C'est extraordinaire, c'est bluffant. La grande innovation de ce dispositif est de pouvoir mesurer de manière chronique en haute résolution l'activité électrique dans le cerveau correspondant en fait à des intentions de mouvement du patient, puis de les transmettre en temps réel vers un ordinateur pour pouvoir décoder tout ça et de pouvoir contrôler les mouvements des quatre membres de l'exosquelette. Cela est possible parce que chez certains paralysés des quatre membres, le cerveau est toujours capable de générer les ordres qui habituellement font bouger les bras et les jambes, mais il n'y a personne qui les exécute. C'est ce qu'explique le professeur émérite à l'université de Grenoble, Alim Louis Benabid. Et donc, avec Thibault, les chercheurs ont montré qu'il était possible de capter correctement cette activité électrique de façon continue et de la transmettre quasiment en temps réel vers un ordinateur qui va pouvoir les décoder afin de piloter les moteurs des articulations des bras et des jambes de l'exosquelette. Je n'ai jamais arrivé à le dire, exosquelette. Cela dit, les perspectives sont prometteuses pour la qualité de vie des tétraplégiques. Eh bien, le chemin est quand même encore long avant de pouvoir utiliser cet exosquelette dans la vie de tous les jours. Dans un premier temps, les chercheurs visent à redonner un peu d'autonomie aux patients dans leur vie quotidienne par le pilotage, par exemple, d'un fauteuil roulant ou d'un bras articulé. En attendant, Thibault, lui, va poursuivre l'essai clinique. Il est, ce mois de novembre, rejoint par un autre patient à qui on va implanter des électrodes. Et puis, il sera aussi suivi de deux autres personnes dans les prochains mois. La suite de cet essai permettra d'acquérir la capacité de saisir un objet avec la main, extraordinaire, ainsi que d'améliorer l'équilibre de l'exosquelette, qui est un peu le point faible de tous les robots de ce type. Mais voilà, grâce à une neuroprothèse, un patient tétraplégique pense justement pouvoir se déplacer et l'information est transmise à un ordinateur qui va agir sur l'exosquelette et ce patient tétraplégique va pouvoir se déplacer. C'est formidable, je vous vous incite à regarder la vidéo sur YouTube, je crois, ou même sur certains sites d'information, parce que ça avait été révélé. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir cette machine, cet exosquelette, je vais réussir enfin à le dire, qui, voilà, et Thibault est à l'intérieur, et il se déplace. Il se déplace parce qu'il commande justement l'ordinateur uniquement avec la pensée. Il commande le fait de pouvoir se déplacer. C'est assez intéressant et bluffant. C'est la technologie. Mais comme le dit très bien cet article, bien évidemment, il va falloir prendre encore un peu de patience pour pouvoir développer quelque chose de, comment dire, de plus efficace et un petit peu plus de pouvoir ensuite le déployer. Donc on est encore loin de voir cela en clair dans notre quotidien, mais en tout cas, voilà, c'est assez important. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale 16 novembre. Ce soir, c'est la cérémonie du remise du prix Robert Valle à l'Université Technologie de Compiègne. Le prix Robert Valle est un concours francophone qui récompense les auteurs d'œuvres qui expliquent la technologie. Donc on est clairement dans le cadre de cette émission en clair. Et voilà, donc il y a plusieurs catégories qui sont proposées, des livres, la catégorie journaliste, la catégorie grand public, la catégorie jeunesse également. Et la cérémonie de remise de ces prix Robert Valle a lieu ce soir au Théâtre Impérial de Compiègne. Je pense qu'il est peut-être encore temps de s'inscrire. Dépêchez-vous d'envoyer un mail. Pour cela, vous allez vous rendre sur le site internet du prix Robert Valle de l'Université Technologie de Compiègne. Mais voilà, c'est donc ce soir, je n'ai pas l'horaire, je ne me rappelle plus, aux environs 19h30 je crois, mais je n'en mettrai pas ma main à couper. Mais c'est en tout cas ce soir au Théâtre Impérial de Compiègne pour cette cérémonie de remise du prix Robert Valle. On en parle tous les ans et donc on pourra voir la proclamation des résultats lors des prochaines émissions de Biotine. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Vous avez la possibilité bien sûr de retrouver le podcast de cette émission sur le site internet graphite.net, et pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM 94.9, eh bien vous avez la possibilité, je crois normalement, de pouvoir retrouver cette émission lors de sa rediffusion le mardi matin à 10h sur l'antenne de Graphite. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine pour pouvoir continuer à feuilleter l'actualité scientifique. D'ici là, bien sûr, je vous souhaite de passer une bonne journée et de rester fidèle à l'ensemble des émissions de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée. À samedi prochain. Au revoir. Merci.